Et tu parlais du fait que tu as traîné bout à bout un mois dans le musée pour faire cet album. Il t'a fallu combien de temps, mais combien de temps à faire un album de bande dessinée comme celui-là?
Alors du coup, j'avais une masse de croquis comme ça. Le bouquin, il fait 70 pages. Et au total, j'ai mis 2 ans, mais j'ai mis 4 mois pour le faire vraiment. Voilà. Dessiner ces pages, c'était 4 mois. J'ai fini dans le train, non, dans un bateau même. J'ai fait les textes dans un bateau. C'est pas mon bateau, c'était un ferry. Et ensuite dans le train, voilà. Mais il n'y a que 2 cases, c'est pas du tout le même travail non plus d'avoir 2 cases à faire par page, ou bien même si c'est la même surface. Vous verrez si vous allez à l'expo ou si vous avez déjà vu, enfin même vous voyez dans les bandes dessinées. Mais même si on dessine un peu plus grand que le format de parution, et si on dessine toujours au même format, c'est pas du tout le même boulot de faire dans la même surface 15 cases ou 2 cases, quoi. Il y a quand même plus de taf avec 15 cases, quoi. Donc là, 4 mois, crayon de couleur, une technique assez simple et immédiate, quoi.
Vous avez lu cet album? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions justement à poser à David concernant la traversée du Louvre? Moi j'ai une question, c'était pour savoir pourquoi ces visages particuliers dans vos BD?
Ah, t'as vu ma gueule?
J'aime bien ça, j'aime bien moi les visages qui accrochent, qui sont un peu spéciaux et qui ne correspondent pas. Là, pour moi, ils sont normaux. Il n'y a même pas de problème de normalité. Moi, je vois un truc, j'aime bien, et c'est aussi des images graphiques. Donc, tu penses de cela, tu veux dire? Par exemple, tu parles pas de cela, mais. Ici, tu vois, il n'y a pas de nez, mais ils ont 2 visages qui m'importent, c'est les yeux. Et je m'arrête là. Après, il y a de la caricature, il y a des trucs, effectivement, des formes qui sont pas forcément réalistes. Mais c'est justement pour exprimer quelque chose, quoi. C'est pour. Si j'ai besoin d'un truc un peu comique, moi, je vais forcer le trait. Si j'ai envie d'un truc très géométrique, je vais forcer le trait. Si je trouve qu'un visage a une structure. Soit j'invente les visages, là c'est pour la là, pour la, là sur cette page-là ils sont inventés. Mais parfois il y a une inspiration, tu essaies de reproduire un personnage ou un acteur, une actrice ou quelqu'un que tu connais. Tu essaies d'être plus proche de ça, mais il y a des gens on a tous des visages différents, c'est fait notre charme. Et il y a des gens qui ont une structure plus ronde ou carrée, ou tu vois, des grands trucs. Je pousse le curseur. Je pousse un tout petit peu le curseur en disant bah, un carré c'est un carré. Je veux pas. Et il y a un nez pointu, c'est un nez pointu. Un nez rond, c'est un nez rond. Une moustache.
Non mais c'est intéressant justement par rapport au premier dessin qu'on a pu voir de ce que tu faisais, où il y avait justement quelque chose de plus réaliste, de plus directement ressemblant, et on se rend compte finalement dans le dessin que parfois vous avez peut-être pu vous en rendre compte que on a l'impression de plus percevoir une personne qui peut-être est moins dessinée de manière réaliste, ou en tout cas son énergie. Il y a quelque chose de paradoxal dans le fait que finalement, des fois dans des albums de bande dessinée, les personnages qui nous semblent les plus vivants et les plus dont on se sent le plus proche ne sont pas forcément les plus réalistes dans le trait.
Oui, parce qu'on arrive à projeter justement à travers la façon de dessiner le Tintin par exemple, c'est 2 points, un petit fer à cheval. Un petit trait et dans un grand rond. Après, bon, il y a les 3 poils, mais puis l'oreille, ça c'est pour finir. Mais le Tintin, c'est que de la signalétique, hein, c'est presque de la ponctuation. Uderzo, dans Astérix, c'est beau. Bon, là, par contre, c'est pas réaliste du tout, mais on a une forme de nez qui est toujours la même, les grands yeux, il sourit, on a la petite moustache, enfin, il y a une codification. Et cette codification-là, elle permet de se projeter, de se dire, déjà, c'est pas un personnage qui nous ressemble tout à fait, donc il n'y a pas le côté, mais t'es moi, t'es pas moi, on se pose absolument pas la question. On plonge dedans parce qu'on sait que c'est pas soi, mais Tintin, il reçoit toutes les émotions qu'on veut, en fait. C'est celui qui le lit qui projette les émotions. Après, il y a des stéréotypes aussi qui arrivent vite. Moi, je goûte pas tellement les stéréotypes. C'est-à-dire que j'ai du mal à reproduire des recettes que d'autres ont utilisées parce que je l'ai beaucoup fait, justement, peut-être au début. J'ai beaucoup copié. Donc je ne m'autorise plus du tout à copier. Je regarde, je m'inspire beaucoup. Ça m'apporte énormément. Mais après, je fais un effort pour me dégager et me dire il faut que je fasse ma propre interprétation d'un visage ou ma propre transcription en dessin. Donc, je pourrais me servir facilement, vu que j'ai ça dans les pattes et que je sais le faire, je pourrais refaire les yeux d'Astérix. Mais j'y arriverai même plus d'ailleurs, parce que il y a un truc qui bloque en moi et qui dit mais non, t'as pas le droit. Il faut que tu fasses ton. Alors, même si c'est bizarre, justement, parce qu'on n'a pas l'habitude, et je ne veux pas resservir la même deux fois le même plat.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bon, tu penses que le micro. Ouais. Bonjour. Alors, qu'il s'agisse de Vive la marée, mort ou vif, ou bien la traversée du Louvre, la forme et la position du corps dans l'espace semblent être un objet de réflexion dans vos travaux. Est-ce que cette question du corps dans la bande dessinée est une facette essentielle de votre travail? Ou est-ce qu'elle est secondaire et quel est votre rapport au corps?
Wow.
The big question. Alors, je vais essayer d'être le plus... je vais faire ce que je peux. Donc, écoute, ça a une très très grande importance. C'est, pour moi, là, c'est un langage corporel et... Le langage corporel est absolument vertigineux, c'est-à-dire qu'il dit presque tout de ce qu'on peut vouloir projeter en tant que dessinateur. Il y a une époque où je me livrais un exercice, c'était, j'avais une camionnette, j'ai pas de bateau, mais j'ai eu une camionnette vitrée, genre un vieux Toyota bien pourri, mais était vitrée. Et j'avais à l'arrière suffisamment de place pour m'installer et dessiner. Et donc j'étais coupé, je me mettais dans la ville et je regardais les passants, je les dessinais et je projetais une question. Qui n'a rien à voir avec leur vie évidemment. Et ben je peux te dire que c'était absolument vertigineux de voir à quel point les corps pouvaient répondre à la question de manière chacun différente à la question que je. Ne leur posez pas. Donc on peut faire absolument dire ce qu'on veut au corps. C'est aussi en tant que dessinateur, c'est pas grave parce que on peut travailler l'éthique de ces personnages. On les modèle comme de la pâte à modeler, on fait ce qu'on veut. Les danseurs, je pense que tu vois, c'est une question qui doit se poser de manière plus accrue, les acteurs encore plus. Parce qu'ils portent vraiment quelque chose d'une humanité. Nous, ça reste des personnages de papier. Donc, le défi, c'est d'essayer de faire que l'attitude soit le plus juste possible avec la personnalité qu'on veut imprimer au personnage. Et leur. Donc là, on est deux à dessiner en réalité. Hein, sur ces pages-là, c'était fait par Pascal et Rabaté. Et moi-même, on a écrit à deux et dessiné à deux. On est allé faire des repérages dans les stations balnéaires. Donc on a fait plein de croquis, on a regardé énormément de corps. Et effectivement, un truc, alors il y a la position du corps dans la case, c'est aussi de la plastique. Un jeu plastique, c'est-à-dire qu'il y a, c'est comme les couleurs, il y a des choses qui se répondent, c'est des rapports de taille, d'un corps à un autre aussi qui peuvent être intéressants. C'est pas forcément deux attitudes. Et on peut jouer de, tu vois, des dimensions. Là, c'est ça, on a deux formes de taille équivalente ici. Et bien ensuite, tu en as deux à nouveau là qui sont à peu près de la même taille, deux un peu plus loin petites, et encore deux plus petites. Des nuances un petit peu pour que ça swing un peu, mais je pense qu'il y a un truc d'équilibre comme ça qui se crée. Et là, c'est pas toujours comment dire, c'est pas toujours tracé à la règle. Ça, c'est un truc qu'on ressent en dessinant, mais qu'il y a un vide par exemple, un endroit qui serait bien de boucher, mais voilà, on sent l'endroit où le dessin doit respirer, tout ça. Et les corps disent énormément là. Mais tu vois, ça c'est un jeu typique là. On en passe de la grille à ce t-shirt. Il n'y a pas que le corps, il y a les vêtements qui jouent énormément. Ça, on peut vraiment s'amuser. Ça. Il y a une autre partie à ta question. Non, ça va, ça répond à peu près à ta question.
Mais justement, il y a quelque chose de particulier avec le dessin. C'est comment est-ce que les corps, le dessin est forcément figé, puisque c'est sur une page. Comment est-ce qu'on réussit à donner du mouvement à un corps? Parce que il y en a des dessins, des albums qu'on lit, où on a l'impression que le personnage est en mouvement, mais en fait, on voit qu'il est figé. Comment est-ce qu'en dessin, on réussit à imprimer un mouvement à un corps?
Je crois que la bonne solution, c'est de mimer. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Soit on se lève vraiment et on demande à quelqu'un qui est avec soi dans l'atelier ou dans la maison de poser pour refaire. Soit on essaie de se dire quand je suis là, ou soit regarder dans la glace. Il faut jouer un peu. Ou alors c'est juste à la table en faisant des mimiques. Tu vois, on connaît beaucoup de dessinateurs qui sont comme ça. Quoi.
D'autres questions? Ouais.
Par rapport au volume, dans une case de votre BD de la traversée du Louvre, vous dites « Les salles du musée deviennent de grandes histoires en volume ». Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de les représenter en 2D? Est-ce que vous avez essayé de jouer, de refaire transparaître cette impression de volume dans vos cases par rapport au tableau et aux personnes, justement?
Ah bah justement, la bande dessinée me plaît parce qu'elle est une transposition plate du monde. Elle met les choses à plat. Ça me plaît énormément. Je n'ai pas tellement de désir de 3D. J'ai très envie de voir, de regarder le monde, de voir comme il est, et de mettre les cartes, si tu veux, les unes à côté des autres, et de voir le jeu que ça donne. De voir pour moi, c'est comme une manière de décoder le monde. C'est plus lisible. Il devient plus lisible pour moi parce qu'il est mis à plat sur la table. Mais ceux qui sont au fond, mais non, le fil n'est pas assez long.
D'autres questions?
Ouais.
Bonjour. Après avoir lu votre BD, je me suis demandé pourquoi vous avez introduit une fiche technique à la fin. Donc par exemple, il y avait les litres de cire utilisés, les mètres carrés, le nombre d'œuvres. C'est un souhait ou...
Non. C'est pas un souhait, c'est le musée qui, à chaque fin d'album, fait un petit dossier comme ça. Mais par contraste, comme il n'y a aucune info dans ma BD, il n'y a rien. On peut la lire très vite, mais je trouvais un contraste intéressant. Donc ils m'ont proposé ça. C'est le gars qui s'occupe de la collection, Fabrice Douard, qui m'a proposé ça. Et je trouvais super intéressant justement ce contraste de plein, boum, un bombardement. Il n'y avait rien avant, une espèce de balade éthérée. Et tout d'un coup, boum, toute l'info, les kilomètres de PQ, tout ça.
Non, parce qu'il faut peut-être préciser justement que c'est justement une collection initiée par la maison d'édition Futuropolis avec le musée du Louvre, et donc il y a environ un album par an qui sort en collaboration avec le musée du Louvre ou un auteur, justement ce que racontait David, où il y avait un petit peu carte blanche sur raconter une histoire à partir du musée, donc chaque auteur le fait également une fois par an. Des mangaka, Urasawa, vous connaissez peut-être, c'est 20th Century Boy, certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui vient de sortir justement aussi une bande dessinée dans cette collection du musée du Louvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en avait d'autres.
Bonjour, en parlant du musée, j'ai remarqué tout à l'heure que vous aviez parlé de votre démarche de création de la BD pendant, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la démarche avant. Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais faire ça? Est-ce que c'est le musée qui vous l'a proposé ou bien est-ce que ça vient de vous? Et la mise en place du scénario aussi, comment vous est venu voilà.
Alors j'ai mis 2 ans pour le faire parce que j'ai mis 1 an et demi à dire non, un peu. Une fois que j'ai eu la carte, le musée m'a proposé de faire une bande dessinée après Rebetiko. Enfin, c'est une histoire où j'avais travaillé tout seul sur une des chanteurs grecques dans les années 20, avec plein d'ombre, de l'encre. Et on suit la journée de 4 ou 5 gars comme ça qui se battent contre la police, qui se trafiquent de la drogue, enfin tu vois, c'était une ambiance complètement différente mais chargée, qui jouait beaucoup de la musique. Et ils m'ont proposé un truc sur le musée, sachant que j'avais un goût pour l'art, puisque j'étais déjà en train de travailler sur un bouquin qui s'appelle Rupestre, sur les grottes ornées. Donc là, j'étais déjà intéressé par ce Enfin, ils savaient que j'avais ce goût pour l'art, parce que les Grecs, là, dont je parle, c'est de la musique, mais des années 20, c'est un truc qui m'a intéressé, je ne savais pas pourquoi. Les grottes ornées, je sais pourquoi. Et puis, ils me disent, bon, allez, ça nous intéresserait de voir ce que tu pourrais produire sur le musée. Je dis, voilà, c'est exactement ça. Mais en échange, on te file une carte et tu peux y avoir accès au musée. Donc, je dis, voyons, mais je m'engage surtout pas. Et je fais les visites et mais rien. Donc j'ai profité de la carte 1 an, j'ai dit, commence à avoir des idées qui viennent, il me faudrait la carte une deuxième année. Donc j'ai eu la carte une deuxième année, donc là je commençais à me dire, bon, un jour il va falloir que je trouve une idée. Mais je disais sans arrêt, dès qu'on se voyait en réunion, si je trouve pas d'idée, je suis pas obligé de le faire. Enfin, j'aurais la... Non, il n'y a aucun souci. Donc j'étais quand même finalement libre, mais après tu as une forme de défi personnel, tu te dis, merde, je suis quand même pas... Alors, il y a des auteurs qui n'y arrivent pas, et je les comprends tout à fait. Et si j'avais pas eu ce déclic, à un moment, en me promenant dans les allées égyptiennes, alors c'est un truc, des connexions. Si j'avais pas eu ce déclic de... Attends, je finis ma phrase, pour être plus... Si j'avais pas eu, sinon tu vas être encore plus embrouillé à la fin que... au début de la question. Non mais j'ai vu des... Vous avez trouvé ça bizarre, mais ça rejoint un peu ce que je vous ai raconté sur le... Quand j'étais en sous-marin, là, en regardant les gens dans la ville et tout ça, je vois des gens derrière une vitrine où il y a des barques thébaines, de Thèbes, de la ville de Thèbes, des barques qui funéraires, des petits objets en bois avec des rameurs. Et c'est des petits jouets, enfin pas des jouets, mais des ex-votos qui représentent les momies qu'on emmenait sur le fleuve, comme ça. Et elles sont toutes rangées comme ça, pam, pam, pam. Et je vois les gens derrière, tout d'un coup, les visiteurs, qui marchent comme ça, eux aussi, vers le même destin. Et je fais une connexion. Le cerveau marche comme ça, de toute façon, il fait des connexions. Qu'on dessine ou qu'on dessine pas, il fait des connexions entre les choses. C'est comme ça qu'on arrive à penser. Et après, on structure ça, on ne se laisse pas déborder, mais on fait des liens. Et la bande dessinée, je me suis dit, mais tiens, la bande dessinée, on fait des liens d'une case à l'autre. Et c'est comme ça que ça s'est construit petit à petit. J'en ai vu une, puis j'en ai vu une deuxième. Ça m'a mis dans un état de curiosité pour aller choper ces images-là, en fait. Les connexions entre les œuvres et les visiteurs. Et c'est parti comme ça. Des fois, j'en ai attrapé. Des fois, j'étais pas du tout réceptif. Je faisais des visites et je ressentais rien du tout. Et puis, parfois, j'en avais bam, 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 comme un chapelet, parce que j'étais dans un état qui... Ça nous arrive tous, des fois on est bien, il fait beau, là là là, on trouve des champignons, puis des fois on passe et puis on trouve rien, quoi. Bon, je pense que c'est à peu près similaire. Les sept m'inspirent, je sais pas pourquoi, mais... Donc j'étais à cette pêche-là d'images, et petit à petit, il s'agissait juste de les assembler dans un ordre qui soit logique et amusant. Et après, j'ai une part un peu fantasmée, qu'on peut croire fantasmée quand il y a un moment où le personnage féminin se fait couper la tête. Et après, on voit celui qui est mon avatar, on va dire, qui se retrouve sans tête sur un canapé aussi. Et ça, c'est la transcription graphique. Extrêmement plate, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je mets les choses à plat, c'est quand on est dans le musée. On marche, on marche, on marche, et puis la tête, elle commence à vagabonder. On peut rester assis là, et avoir la tête qui part je sais pas où, penser à je sais pas, demain, un jeu. C'est exactement, j'ai juste dessiné ça en fait. Et ça s'est assemblé petit à petit.
Et